suite à vos toutes les prédications. Non. Voilà, il y a 15 jours. On était parti sur ce texte. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voilà, on entend pratiquement cette phrase, ce texte de l'Écriture, pratiquement tous les dimanches au moment du partage du pain et du vin. Et puis je souhaitais revenir sur cette nouvelle alliance, cette coupe, cette nouvelle alliance dans le sang de Christ. Et puis... Voilà, on a vu la dernière fois ce texte qui disait ce témoignage triple. L'esprit, l'eau et le sang. C'était un texte dans la première épître de Jean. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Comment le Saint-Esprit peut nous inspirer au quotidien, comment il peut nous guider dans la lecture de l'Écriture, hein, le symbole de l'Écriture, c'est comme de l'eau. Voilà, comme on se lave tous les matins, et bien, de lire l'Écriture au quotidien, c'est quelque chose qui nous purifie au quotidien. Et puis, hein, cette expression, l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Alors, je disais, moi, j'ai été élevé il y a 50-60 ans, fréquentant avec ma mère les milieux de les assemblées de Dieu, les milieux de Pentecôte, toutes les dames âgées qui priaient pour moi étaient toujours, voilà, on le place sous le sang de Christ, le sang de Christ. Voilà, ça peut devenir une petite ritournelle ou un petit mot magique, le sang de Christ. Donc j'avais envie de voir avec vous un petit peu c'est quoi le contenu de cela. La coupe que nous bénissons, cette coupe est la nouvelle alliance dans le sang. Je vous ai aussi les coupes dans l'Écriture, il y en a 7. Donc le dimanche matin, on en voit une. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Mais ça peut être une coupe de colère et de jugement. Ça peut être une coupe d'étourdissement pour Jérusalem. Ça peut être une coupe de délivrance, une coupe de consolation. Une coupe de souffrance, c'est Jésus qui dit, hein, ne vais-je pas boire cette coupe de souffrance en allant sur la croix. Et puis on a les 7 coupes dans l'Apocalypse, donc vous voyez, c'est aussi un thème qui est très nombreux et puis que l'on verra plus tard. J'aimerais prendre avec vous ce matin appui sur un texte dans la première épître de Pierre. Au chapitre 1, les versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de lui. Ce n'est pas par des choses périssables, on ne peut pas gagner son salut par de l'argent ou de l'or. Au Moyen-Âge, le pape à Rome avait trouvé le truc pour construire sa basilique. Il avait dit, oh ben c'est génial, on va mettre un tronc. Et 5 euros, et avec ça, moi je te fais une éternité tout propre. On gomme tout ce que tu as fait avant. 5 euros, 10 euros, alors 100 euros, c'est extraordinaire. 1000 euros, là, c'est le salut éternel. Un système pour... ça s'appelait les indulgences. Un homme s'est élevé contre ça. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Luther, quand il a été à Rome, 1500 et quelques, Il est revenu tout moine qu'il était. Il s'est dit, mais c'est quoi, où je suis tombé, dans quoi, c'est quoi la relation avec Dieu, avec Christ? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une prière écrite sur un bout de papier qu'on met dans un tronc avec un billet puis qui dit « ton âme est sauvée » Il s'est révolté contre cela. Si nous sommes là ce matin, c'est en partie parce que cet homme s'est révolté contre ce système. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Souvent, on pense faire un bon héritage. Donc au Canada, en Australie, il y a un village à Gourin où il y a plein de gens qui ont de la famille. Aux États-Unis, tout le monde espère peut-être avoir un grand-oncle, un parrain, quelqu'un qui a bien gagné sa vie. Et puis un jour, on reçoit une lettre d'un avocat, d'un notaire. Jackpot. On a hérité beaucoup de choses de nos parents. Toutes ne sont pas extraordinaires. Avoir envie de changer d'héritage, il y a un rachat, une délivrance par le sang précieux de Christ. Puis souvent, il faut du temps, peut-être parfois une vie, pour entrer, avoir l'explication de simplement ce que ces deux mots veulent dire, ces trois mots, le sang précieux de Christ. Quand on est jeune chrétien, ça peut être parfois un petit peu compliqué à comprendre. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Là, voilà, on verra. Ça nous ramène à un texte de l'Exode connu. Il s'agit pour Israël de sortir de l'esclavage d'Égypte. Et puis, on verra tous ces textes plus tard. Le sang, c'est la vie. Des hommes, des femmes, surtout des hommes, voilà, quand on lit dans les romans, dans les livres, voilà, il y a très longtemps, des gens faisaient des serments. Et puis, ils se faisaient une entaille au poignet, on faisait comme ça, des mélanges, des serments de sang. Aujourd'hui, c'est un peu oublié, c'est pas forcément nécessaire. Le sang, c'est la vie. L'Écriture nous en parle abondamment. J'ai défini un petit peu cette ligne d'interprétation, cette ligne d'inspiration. Le sang innocent. Le sang, l'âme, la vie. Pâques, l'agneau immolé, le sang d'un agneau sans défaut, sans tache. Le sang comme signe, comme protection, comme couverture spirituelle. Le sang qui fait l'expiation, la rédemption, le pardon, la délivrance, la liberté. 6. Le sang comme ligne de vie. Francine nous a parlé de Rahab il n'y a pas longtemps. Elle avait caché les espions avant qu'Israël fasse tomber les murs de Jéricho. Et puis les deux espions qu'elle avait cachés lui ont dit « Waouh, tu nous as fait du bien, nous on veut t'en faire aussi. Quand on va attaquer la ville, tu mettras un cordon rouge, cramoisi à ta fenêtre. Toi et ta famille, vous serez épargnés. » Le sang est aussi une ligne de vie pour chacun d'entre nous. Cette expression, l'agneau de Dieu, on le verra en détail, qui ôte le péché du monde. Et puis, voilà, j'ai trouvé un huitième, le sang de Jésus dans les lieux célestes, dans notre vie quotidienne. C'est quoi être sous le sang de Christ ou vivre par le sang de Christ? Voilà, on va faire quelques pas avec ce thème du sang. Donc je vous propose le premier, le sang innocent, dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 4, les versets 8 à 11. Une histoire un peu triste, hein. C'est une première entrée dans les choses qui se dérèglent parmi les hommes, c'est l'histoire du premier meurtre. Genèse chapitre 4, je crois que je n'ai pas mis le début des versets, mais Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se coûte à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait à la voix du sang de ton frère ? Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant, vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue. Premier drame, premier meurtre, une histoire de jalousie. Il y a eu une élection, une préférence sur l'offrande de Abel. Caïn en a été irrité et abattu, peut-être pendant des semaines, des mois, des années. Il a ressassé ça, peut-être il n'osait plus s'adresser à Dieu, je ne sais pas, dans tous les cas. Ces pensées-là ont pris racine dans son cœur. Et le jour où il a rencontré son frère Abel dans les champs, en face à face, son irritation a pris le dessus. Je ne sais pas s'ils ont réussi à se parler longtemps. Mais il y a un moment donné, Caïn a sauté sur son frère. Il ne s'est pas dit les détails. Peut-être trouver une pierre dans le champ et puis il l'a agressé, tapé sur la tête. Ouais, peu importe le moyen par lequel. Le sang de son frère a été versé sur la terre. Le sang innocent. Pour une histoire de choix, une histoire d'élection. On a un texte où il dit à Caïn, voilà, tu peux changer ta relation avec Dieu. Voilà, une première fois, ton offrande n'est pas passée, mais voilà, peut-être tu peux changer ta pensée, puis en faire une autre. Peut-être acheter à ton frère un animal, et puis, ou le négocier, et puis offrir toi aussi un animal. Si tu agis bien, tout va bien. Mais si tu veux continuer, laisser des pensées s'enraciner dans ton cœur, dans tes intestins, dans tes pieds, dans tes mains, et puis laisser l'irritation contre ton frère C'est terrible, hein, les fratries, quand il y a des oppositions qui vont jusqu'à avoir l'envie de meurtre, l'envie de supprimer. Hein. 1 Jean, chapitre 3, les versets 11 à 16, je nous en ai reparlé un petit peu. Ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que si nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous savons que nous avons connu la mort en ce qu'elle a donné sa vie pour nous aussi. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La fraternité est dure sur la terre, surtout en ce moment. On parle aujourd'hui de la fraternité, de la sororité. S'aimer entre frères et sœurs, que l'on soit du même sang ou pas du même sang, tous les êtres humains sont un seul, sont issus d'un seul. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Caïn avait accepté des paroles, des pensées de mort, puis disant, là, mon frère, je l'ai dans le viseur, si je peux, je le mets de côté. C'est toujours d'actualité. Il suffit d'ouvrir les médias chaque jour, les journaux. La mort est présente. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, ne pas ressembler à Caïn. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Le Christ Jésus, innocent, le sang innocent a été versé. On prend un texte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 27. C'est le moment où Pilate doit choisir. Qu'est-ce que je vais faire avec Jésus ? Pour beaucoup, ce type-là, il casse les pieds de tout le monde dans Jérusalem. Il met le bazar, il veut faire la révolution. Il dit même qu'il est le Fils de Dieu. Blasphème. Verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Pilate le relâcha Barabbas, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus était juste et innocent. Et tout d'un coup, Pilate a cette révélation. Déjà la nuit, sa femme le réveille au milieu de la nuit et lui dit, mais t'as pas un problème avec Jésus ? qu'est-ce que vous voulez en faire ? Elle dit, moi, je ne le sens pas. Puis tout d'un coup, Pilate, au moment de prendre cette décision, pareil, il ne le sent pas. Il dit, non, moi, je me désolidarise de ce que vous avez envie de faire, peuple de Jérusalem, romain. C'est célèbre, hein, se laver les mains. Pilate dit, ouais, et la foule renchérit. Non, crucifie-le, livre-le nous. C'est difficile de penser en esprit. Quelque part, nous étions à Jérusalem il y a 2000 ans. Parfois, c'est comme ça que j'ai pris la chose. Je dis, mais c'est pas moi qui ai tué Jésus. Et puis en même temps, dans ce que je suis, dans mon héritage paternel, maternel, il y a quelque chose en tant qu'être humain qui, on dit, qui ne tourne pas rond. Et parfois, je me suis dit, j'étais il y a 2000 ans à Jérusalem en train de crier, crucifie-le. C'était aussi une manière pour moi de rentrer dans cette révélation de la délivrance, la rédemption. Il a donné sa vie sur la croix comme un agneau innocent, saint, sans défaut, sans reproche. Pilate l'a compris. La tradition raconte qu'il est parti en retraite à Lyon. Mais sa fin était assez triste. On pense que Pilate s'est suicidé. Il y a un moment donné, ce qu'il a vécu à Jérusalem a été un tel poids que il ne savait plus comment s'en sortir. Malgré qu'il se soit désolidarisé, le christianisme naissant s'est répandu dans toute une partie de l'Empire romain assez vite. Et Pilate, en dehors, s'est dit, mais est-ce que j'ai la bonne compréhension de ce qui s'est passé il y a tant d'années à Jérusalem ? Même si je me suis lavé les mains, et à un moment donné, la culpabilité l'a écrasé. Le sang, c'est la vie. Si on répand le sang innocent, il y a quelque chose qui ne va pas. La voix du sang de ton frère crie. La voix du sang de Jésus sur la croix crie. Jusqu'à ce que l'on fasse la paix avec Dieu au travers du Christ Jésus. On verra plus tard hein, toutes les richesses de ce thème. On va partager là maintenant le pain et le vin. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang innocent a été répandu. Le sang de Jésus a coulé de la croix. On va avancer pas à pas dans ce thème. Voilà, une marche après l'autre. C'est une révélation spirituelle importante. Bien comprendre ce qu'est l'expiation, la rédemption, c'est le signe que tous les patriarches ont dû traverser. C'est le signe qu'Israël a dû traverser au travers des sacrifices journaliers. C'est une révélation dans laquelle on doit grandir toute notre marche, toute notre vie spirituelle. Là qu'on poursuivra le voyage ensemble.